c'est sur le bord de la route. Ils nous font des promesses, des monts et des merveilles, et on voit bien que ça se produit pas.
C'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui sont taxés.
On ne peut pas tenir comme ça. C'est impossible.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Tout à l'heure, retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortuneo, la banque sur qui compter pour votre compte bourse. À retrouver sur fortuneo.fr. Fortuneo, j'aime ma banque.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner en ce mercredi soir pour Europe 1 Nuit jusqu'à 22h30. Je vous rappelle d'ores et déjà qu'à 22h45, vous retrouverez à ce micro Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Et si vous souhaitez échanger avec Olivier, vous pouvez composer dès maintenant le 01 80 20 39 21. Pour le moment, c'est votre journal. Et à la une, François Bayrou peine à avancer. Moins de 10 jours après la réunion entre Emmanuel Macron et l'ensemble des forces politiques hors RN et LFI, le Premier ministre invite demain à Matignon l'ensemble des forces politiques hors RN et LFI. Signe que les consultations pour composer le futur gouvernement ne sont pas très efficaces. Pour quelle raison? Réponse dès le début de ce journal. Bruno Retailleau, le ministre le plus en vue ces derniers mois, va-t-il poursuivre sa mission à l'intérieur? Pas à n'importe quel prix, assure le principal intéressé qu'il a fait savoir à François Bayrou aujourd'hui. Sa reconduction est en tout cas vue d'un mauvais œil à gauche. Explication dans quelques minutes. Dans ce journal également, nous serons à Mayotte où les sinistrés du cyclone Chido peinent à trouver de la nourriture et de l'eau dans les supermarchés approvisionnés au compte-gouttes. Des touristes américains détroussés dans le quartier des Moulins à Nice. Et puis malgré la polémique, l'artiste Claire Tabouret est officiellement chargée de créer des vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris.
Europe 1.
François Bayrou sera-t-il en mesure de proposer un gouvernement d'ici la fin de la semaine? Rien n'est moins sûr à ce stade. Le Premier ministre consulte depuis lundi et il semble devoir encore prendre la température. Alors il invite les chefs de parti et de groupes politiques hors Rassemblement National et la France Insoumise à Matignon demain. Bref, ça n'avance pas, Jacques Serret.
Oui, nous en sommes quasi au même point que la semaine dernière. Il y a 8 jours, Emmanuel Macron organisait à l'Élysée une réunion des différentes forces politiques hors RN et LFI. Depuis, comme vous le savez, François Bayrou a été nommé Premier ministre. Et que fait-il ce soir? Eh bien, il invite les mêmes, cette fois à Matignon. Rendez-vous demain à 14h. Le maire de Pau convie la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, les présidents de partis politiques et présidents de groupes qui ont eu, je cite, la responsabilité des affaires du pays à une période de la 5e République. Autrement dit, selon un conseiller de l'exécutif, ni LFI, ni RN et ses alliés, mais le groupe Liotte est invité. Le courrier vient de partir. Le Premier ministre y explique qu'avant de proposer au président une composition de gouvernement, il veut les rencontrer pour les éclairer et les entendre sur les orientations que nous devrons suivre. Après avoir vu tout le monde séparément, François Bayrou convie donc à une même table ceux avec qui il veut bien travailler. Le signe que le nouvel hôte de Matignon est loin à ce stade d'avoir terminé la construction de son gouvernement.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Alors on le sait déjà, la volonté de François Bayrou, c'est de nommer une équipe resserrée, environ 25 ministres, issus de la droite, de la gauche et du centre. Mais la tâche n'est pas facile, vous l'avez compris, chacun met ses lignes rouges en avant. Le Parti Socialiste ne veut pas de loi immigration, portée par Bruno Retailleau par exemple. Quand le ministre de l'Intérieur démissionnaire exige des garanties sur les sujets régaliens pour poursuivre sa mission Place Beauvau. Alexandre Chauveau, François Bayrou s'est d'ailleurs entretenu avec le poids lourd du dernier gouvernement.
Oui, Bruno Retailleau a été clair, sans faire de chantage, il a renouvelé auprès du Premier ministre la liste des mesures qu'il souhaite appliquer coûte que coûte Place Beauvau. On parle notamment de la réforme de l'aide médicale d'État, de la fin du droit du sol à Mayotte ou de la conditionnalité des aides sociales pour les étrangers à une durée minimum de séjour. Des propositions qu'il juge non seulement populaires dans l'opinion, mais aussi et surtout indispensables pour établir l'ordre et maîtriser l'immigration. Avec François Bayrou, se joue désormais un rapport de force qui ne dit pas son nom. Le Premier ministre aimerait ne pas se mettre à dos les socialistes. Bruno Retailleau exige lui des garanties et met en avant le poids de la droite au Parlement. 47 députés à l'Assemblée, certes, mais une majorité au Sénat et en commission mixte paritaire. Enfin, au-delà des demandes de fonds, la droite réclame des ministères, pas moins d'un tiers, confie un conseiller, pour tenter de peser au sein d'un exécutif qui devrait comprendre plus de socialistes que sous Michel Barnier. Une réalité qu'LR est prête à accepter en fonction du profil des nouveaux entrants côté PS.
Alexandre Chauveau et François François Bayrou se concentre donc sur la composition de son futur gouvernement après de nombreuses critiques sur son attitude jugée négligente face à la crise à Mayotte. Ce soir, le Premier ministre tente de se rattraper en qualifiant le cyclone Chido de catastrophe naturelle la plus grave de l'histoire de France depuis des siècles. Emmanuel Macron va se rendre sur l'archipel dévasté demain à bord de l'avion présidentiel, 4 tonnes d'aide alimentaire et sanitaire. Wilfried De Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Ces vivres sont essentiels pour les sinistrés parce que 4 jours après le cyclone, les commerces sont bien vides.
Oui, encore cet après-midi, j'ai vu de longues files d'attente devant certains supermarchés. Des clients qui bien souvent cherchent la même chose, de l'eau potable. C'est la ressource qui manque le plus ici à Mayotte depuis le passage du cyclone. Soudjaï s'est rendu dans 4 supermarchés différents et espère que celui-ci sera vide réapprovisionné.
Un peu compliqué de trouver des bouteilles d'eau dans les magasins. Du coup, la plupart des gens se ravitaillent dans les rivières. Et j'ai vu même des gens boire de l'eau de la rivière qui n'est pas potable. C'est la seule solution pour survivre. On est dans le survie actuellement.
L'eau, mais aussi du riz, des pâtes, si certains rayons sont bien fournis, ils manquent souvent l'essentiel pour se faire à manger. Et quand ils sont en rayon, certains produits sont rationnés. Ramzi Boukris, responsable d'un supermarché.
On a déjà limité l'eau à un pack par client. On avait de l'eau ce matin, mais il y avait une grosse file d'attente. Et on ne peut pas laisser un seul client qui récupère pratiquement la totalité. Donc on essaie que tout le monde y sorte avec quelque chose, le temps qu'on reçoit la marchandise.
Un rationnement parfois mal accepté par des clients qui tentent de repartir avec plusieurs packs d'eau. Dans un supermarché, la police a dû intervenir tout à l'heure pour calmer les esprits.
Wilfried De Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, et le dernier bilan de Chido communiqué par les autorités fait état d'au moins 31 décès et de plus de 1400 blessés. Un pont maritime civil sera mis en place cette nuit depuis la Réunion. 200 conteneurs devraient arriver sur l'archipel d'ici dimanche avec plusieurs millions de litres d'eau pour les sinistrés. Les Mahorais vivent en ce moment une deuxième nuit sous couvre-feu pour éviter les pillages. Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. La réaction de Nicolas Sarkozy après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes par la Cour de cassation aujourd'hui. 3 ans de prison dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique. Validé à l'encontre de l'ancien président de la République qui va saisir dans les semaines à venir la Cour européenne des droits de l'homme.
Europe 1 nuit, Maël Hassani.
Un chauffeur de bus peut-il encore faire respecter les règles dans son propre véhicule? La question peut se poser ce soir au vu de la situation de ce chauffeur toulousain convoqué demain par sa hiérarchie et menacé de licenciement après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Charles Huillier, qu'est-ce qui est reproché précisément à cet agent?
Eh bien, tout simplement d'avoir empoigné un peu trop fermement l'un des jeunes fraudeurs pour le forcer à quitter le bus. Juste avant, le chauffeur avait reçu un coup de pied, des menaces et des insultes. Une réaction sanguine, certes, mais compréhensible, affirme ce collègue, qui soutient le malheureux mis en cause au vu du contexte d'insécurité dans les bus ici.
N'importe quel d'entre nous peut arriver à ce point-là, en fait. Dès qu'on a une petite intervention, bah, malheureusement, on est tout de suite dans le conflit et on n'est pas dans le dialogue. Et du coup, ça monte très très vite et on se retrouve dans ce genre de situation, tout simplement. Avec la fatigue, l'usure, surtout, ouais, des comportements de groupe qui peuvent être menaçants, qui fait qu'on est dans un état d'esprit un peu plus nerveux. On a tous connu ça et on connaîtra encore, malheureusement, ce genre de choses.
Une vague de soutien qui va bien au-delà du cercle des collègues. Outre les usagers, eux aussi solidaires, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a publiquement pris fait et cause pour ce chauffeur de bus et son licenciement, s'il intervient demain, ne fera qu'amplifier la polémique.
Charles Huillier, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. 300 personnes réunies sur le port de Dunkerque cet après-midi. Une marche silencieuse était organisée par les proches et les collègues des 2 agents de sécurité froidement tués par balle samedi dernier par Paul Domis. Ce jeune homme de 22 ans qui reconnaît 3 autres homicides le même jour et dans le même secteur sans expliquer clairement son geste. Il est en détention provisoire depuis hier. Moins d'une semaine après le passage à tabac de 2 policiers en civil dans le Vieux-Nice, 3 des 5 agresseurs présumés jugés hier en comparution immédiate sont placés en détention provisoire malgré le renvoi du procès au 14 février prochain. Selon un sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, 77% des Français sont favorables à des peines de prison automatiques pour les auteurs de violences contre les forces de l'ordre. À Nice, toujours des touristes attaqués dans le quartier sensible des Moulins. Ça s'est passé lundi matin. Un couple de riches touristes américains a été agressé et détroussé. Total du préjudice, plus de 15 000 euros. Guillaume Dominguez, les victimes se sont retrouvées dans ce quartier gangréné par la violence et le trafic de drogue totalement par hasard, alors qu'elles cherchaient un bureau de poste.
Ah oui, rien de plus banal a priori, sauf que ce couple fortuné circule au volant d'une Ferrari estimée à plus de 150 000 euros et que le GPS sur lequel ils ont rendu renseigner l'adresse du bureau de poste le plus proche, les conduit place des Amaryllis en plein cœur de la cité des Moulins. Une fois sur place, le mari dépose son épouse devant l'entrée de la poste et va garer sa voiture quelques dizaines de mètres plus loin. C'est à ce moment que tout s'accélère. À peine la voiture est-elle stationnée que deux, trois hommes encerclent le véhicule. L'un d'eux ouvre immédiatement la portière passager et arrache un sac à main Hermès de l'épouse avec à l'intérieur 5000 euros en liquide, son téléphone, sa carte bleue et ses papiers d'identité. Les deux autres malfaiteurs sortent le conducteur de force, le traînent sur le trottoir et le rouent de coups. Avant de prendre la fuite, ils lui volent son sac Louis Vuitton avec à l'intérieur 11 000 euros en liquide et ses lunettes de soleil. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte par le parquet de Nice. Les investigations ont été confiées au service local de la police judiciaire.
Le récit de Guillaume Dominguez. Le projet de loi spécial pour pallier l'absence de budget pour 2025 est définitivement adopté par le Parlement après un ultime vote du Sénat aujourd'hui. Ce texte destiné à permettre la continuité de l'État pourra donc être promulgué avant le 31 décembre prochain afin d'éviter un shutdown. Le fameux EPR de Flamanville sera raccordé vendredi au réseau électrique et c'est un événement parce que ce réacteur nouvelle génération dont la construction a été lancée il y a 20 ans va produire de l'électricité avec 12 ans de retard sur le calendrier initial. Changement de calendrier lié à des problèmes techniques et à l'origine d'un dérapage budgétaire monumental. Les coûts engagés sont 4 fois supérieurs au devis initial selon EDF. Vous écoutez Europe 1, il est 22h11. Claire Tabouret, chargée d'un travail unique, réaliser des vitraux contemporains pour Notre-Dame de Paris. C'est cet artiste peintre qui vient de remporter l'appel d'offres souhaité par l'Élysée et l'archevêque de Paris malgré une vive polémique. De nombreux défenseurs du patrimoine refusent de voir les vitraux d'origine épargnés par l'incendie de la cathédrale remplacés par des œuvres contemporaines. Pas de quoi gâcher l'enthousiasme de l'heureux élu rencontré par Caroline Baudry pour Europe 1.
Des lumières dansantes et un thème figuratif, la Pentecôte. C'est ainsi que Claire Tabouret présente émue son travail dans un préfabriqué du chantier de Notre-Dame. Et cette première ébauche, un dessin de vitrail dans un joyeux camaïeu de bleu.
Le vitrail, par son matériau même, va évoluer tous les jours, sera une expérience différente pour les visiteurs, sans cesse renouvelée, suivant la lumière, suivant l'heure du jour, suivant la météo. Tous les personnages sont réunis à l'intérieur de la maison en prière. Ils ont été en prière déjà depuis de nombreuses semaines, donc il y a une dimension extrêmement intérieure dans l'image.
Derrière ces personnages se dévoilent des vitraux. Dans les vitraux, ceux de Viollet-le-Duc représentés, plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage.
Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender ce projet, avec beaucoup de respect de ce qui était avant et de ce qui sera après. Mais c'est ça qui est très enrichissant et merveilleux.
Les 121 mètres carrés seront réalisés par l'atelier du maître verrier Simon Marc. Interrogé sur les levées de boucliers face au projet contemporain, l'artiste répond, ce débat est passionnant et que le grand public s'en saisit est un très bon signe.
Le reportage européen de Caroline Baudry du football avec un match en avance de 16e journée de Ligue 1 ce soir. L'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain. 48 minutes de jeu, 1 but à 0 pour le club de la capitale. Un point sur les marchés financiers.
Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortuneo. Fortuneo, j'aime ma banque.
Et la Bourse de Paris qui clôture en très légère hausse ce soir, plus 0,26% à 7384 points. Les investisseurs se montrent toujours prudents à quelques heures de connaître l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et du côté des États-Unis justement, eh bien c'est une clôture en forte baisse, moins 2,58% pour le Dow Jones, moins 3,56% pour le Nasdaq.
C'était Rendez-vous Bourse avec Fortuneo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortuneo, j'aime ma banque. Source Moneyvox mai 2024, voir détails des conditions tarifaires sur fortuneo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.
La météo désormais, avec vous Marlène Duret, retour de la pluie et du vent demain.
Deux fronts vont se rejoindre pour n'en former qu'un. Ça va nous donner un beau corps pluvieux qui circulera d'ouest en est d'ici à demain soir, sans atteindre les régions méditerranéennes. Alors ces pluies vont s'accompagner de vent, ça va souffler fort près de la Manche. Et une fois la perturbation passée, c'est un temps changeant avec des averses et surtout de l'air plus frais qui va gagner le pays d'abord par le nord-ouest. Près de la Méditerranée, on ne verra pas vraiment le soleil à cause des entrées maritimes qui pourront d'ailleurs donner quelques gouttes. Le nord et l'est de la Corse profiteront d'éclaircies. Et enfin la bonne nouvelle, le retour de la neige en montagne. Donc une limite plus neige qui va continuer à baisser, en particulier demain soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Côté température, la nuit s'annonce encore douce, mais après le passage des pluies, demain après-midi, eh bien les températures vont chuter, compter 5 à 11 degrés en général, jusqu'à 14 dans le Pays Basque. risques. Et notez en général aussi 14 à 17 autour de la Méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Duret et merci à vous de nous écouter sur Europe 1 ce mercredi soir. Place à la première invitée politique, la députée LFI Alma Dufour, qui répondait tout à l'heure aux questions de Pierre de Villeneuve sur cette nouvelle invitation de François Bayrou à Matignon. Toutes les forces politiques sont conviées demain afin de former un gouvernement, toutes les forces politiques sauf le RN et la France Insoumise.
Europe 1.
Bonsoir à vous Alma Dufour.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en ligne et en direct sur Europe 1. Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime. Même question, une heure plus tôt, je posais la question à Thomas Ménager du RN. Vous aussi, LFI, vous non plus, plutôt vous n'êtes pas convié à ces discussions à Matignon demain. Comment est-ce que vous le prenez?
Honnêtement, ça me fait un peu ni chaud ni froid, voire je le prendrais plutôt comme une légion d'honneur, parce que ce Premier ministre n'est ni légitime ni compétent, et il n'est qu'un sursis en fait au président Emmanuel Macron. Voilà, en fait, je vois pas pourquoi on irait à une réunion convoquée par Monsieur Bayrou qui dit qu'il va nous éclairer sur les orientations à suivre alors qu'il est
éclairé
d'un parti qui est encore plus minoritaire que les Républicains et que l'ensemble du bloc macroniste a perdu les élections législatives, s'il faut encore le rappeler.
Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Vous, vous dites que vous arrivez en tête, donc vous dites que vous avez gagné. Certains disent personne n'a gagné. Enfin, en tout cas, les élus EPR disent ça.
Bah non, mais c'est-à-dire, enfin, je sais, c'est mathématique, on peut pas faire de la post-vérité non plus, que personne n'ait la majorité absolue, personne n'ait le contexte,
et oui,
que ne le conteste, et que
pas.
Du coup ce soit difficile de gouverner dans cette situation, personne ne le conteste. Néanmoins, il y a une force qui s'est présentée unie aux élections et qui a recueilli le plus de sièges lors du deuxième tour des législatives, elle s'appelle le Nouveau Front Populaire. Si on avait décidé de s'allier après coup pour former un groupe, la question pourrait se poser, mais on s'est présenté sous une seule étiquette aux élections devant les Françaises et les Français. Donc du coup, effectivement, ça fait de nous la force arrivée en tête. Et donc,
est-ce que vous auriez préféré,
Monsieur Bayrou, qui est du parti, le cinquième parti représenté à l'Assemblée nationale, n'a pas de légitimité à nous dire quelles doivent être les orientations pour le pays?
J'entends votre point. Juste une chose, est-ce que vous auriez préféré qu'on nomme Lucie Casté tout de suite après les élections anticipées et Lucie Casté qui aurait été censurée dans les 48 heures?
Ben justement, et là, vous, ce que vous posez comme question, c'est le rôle du Rassemblement national qui essaye de se faire passer pour des agents de la stabilité. En fait, en réalité, le Rassemblement national, il faut le rappeler, a choisi déjà Macron, tout en se réservant le droit de le censurer dès qu'il sent que ses électeurs ne le suivent pas assez. Parce que, en fait, le Rassemblement national a empêché d'emblée la constitution et la nomination d'un gouvernement de gauche, malgré la crise sociale terrible dans laquelle se trouvent les Françaises et les Français. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Nous, on aurait préféré, évidemment, avoir un gouvernement de gauche, mais pas parce que... pas pour nous, mais pour l'urgence dans laquelle on se trouve. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a plus de 150 000 salariés dont l'emploi est menacé par des plans sociaux. J'étais encore la semaine dernière dans une usine de Normandie qui va fermer. Et en fait, je suis extrêmement choquée que le bloc central ne mentionne jamais l'existence de ces plans sociaux, les faillites en cascade,
et
se contente de parler du soi-disant sujet de consensus qui ne sont pas les priorités des Français.
C'est pas vrai, Alma Dufour. Marc Ferracci, quand il était ministre de l'Industrie, il a mentionné, et effectivement, il a dit qu'il y aurait encore d'autres plans sociaux.
Il a fait un constat, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je peux vous dire que j'ai fait plusieurs rendez-vous avec Bercy sur les sujets, et à chaque fois, on disait, on peut rien faire. Et depuis, il n'y a aucun son, aucune image du côté de la Macronie en général et du MoDem sur cette question qui est absolument cruciale pour des centaines de milliers de familles. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'une explosion record depuis 12 ans des faillites. On parle quand même de centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Et tout le monde fait comme si c'était pas important. Pour moi, c'est le premier sujet qui devrait être sur toutes les bouches.
Ah bon?
Et j'observe qu'il y a évidemment que la gauche et surtout la France insoumise qui le porte aujourd'hui.
Louis Hozelter voulait vous interroger du Figaro.
Les socialistes qui étaient vos partenaires au sein du Nouveau Front Populaire ont été reçus par le Premier ministre François Bayrou. Ils seront sans doute demain à cette réunion qu'il réunit sans vous. Est-ce que vous, avec leur attitude qui consiste à au moins aller discuter et voir, comme l'a dit le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure, s'il pouvait y avoir des concessions réciproques avec la Macronie, est-ce que vous considérez que le nouveau front populaire est mort, ou en tout cas qu'il y a une brèche très importante qui a été creusée en raison de cette attitude constructive envers le gouvernement du Parti Socialiste?
Non. Donc, on va pas acter. Je sais que ça ferait plaisir à beaucoup de gens, notamment à droite, qu'on acte la mort du Nouveau Front Populaire, mais c'est pas ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les Français ont voté pour le Nouveau Front Populaire en juillet, parce qu'on a besoin du Nouveau Front Populaire dans les élections qui vont arriver vite, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Je pense qu'on n'y coupera pas, en tout cas pour les législatives, assez rapidement. Non. Par contre, on sait et on les alerte sur le fait qu'ils donnent ils font semblant de croire qu'ils peuvent obtenir quelque chose d'Emmanuel Macron, parce que c'est pas Bayrou qui décide, c'est Macron. Macron ne veut pas de concession à gauche, en fait. Macron ne voulait pas même de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. D'ailleurs, là, il a eu l'occasion de le renommer encore Premier ministre. Il ne l'a pas fait.
Alors qu'il vient du Parti Socialiste.
Parce que il ne veut pas qu'on touche à son programme, à ses mesures économiques, de cadeaux fiscaux aux grands groupes, aux multinationales, aux plus riches. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse pour Emmanuel Macron. Et je vois mal quelles concessions il va proposer demain via François Bayrou à nos partenaires. Et en réalité, s'il y avait des concessions sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, sur les plans sociaux justement, qui devaient être faites, à mon avis, ça fait longtemps qu'on en aurait entendu parler là depuis 10 jours.
Alma Dufour, qui était donc l'invité de Pierre de Villeneuve dans Europe un soir tout à l'heure. Deuxième invité que l'on va écouter maintenant, et bien c'est le ministre démissionnaire chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui s'est rendu à Mayotte, dévasté par le cyclone Chido, et il répondait ce matin aux questions de Dimitri Pavlenko.
Europe 1.
Bonjour François-Noël Buffet.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors vous êtes en ce moment même à Saint-Denis de la Réunion, donc c'est la base arrière pour toutes les opérations de sauvetage à Mayotte. Mayotte que vous avez pu visiter depuis lundi en compagnie du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Alors peut-être pour commencer François-Noël Buffet, parce que Mayotte, on se rend compte à quel point ça peut être difficile d'accès, surtout en ce moment. Racontez-nous ce que vous avez vu sur place. On a vu en France les photos de ces amas de tôles dans les bidonvilles dévastées par le cyclone. Décrivez-nous un peu l'ambiance que vous avez trouvé sur place.
Écoutez, c'est une vision d'apocalypse, un territoire totalement dévasté où aucun de ces lieux ou de ces n'a été épargné. Le survol en hélicoptère que nous avons fait est absolument a permis ce constat, ce malheureux constat. La végétation n'est plus là, évidemment. Oui. Les bidonvilles, tout ça a disparu. Mais dans les habitations, les autres habitations, les toits se sont envolés. Les maisons ont été inondées, les maisons en dur ont globalement résisté, mais les toits se sont envolés pour la majorité d'entre eux. Quelques bâtiments ont résisté, en revanche, des bâtiments plutôt récents, oui, qui sans doute respectaient les règles sismiques, mais finalement, au bout du compte, très peu.
Il n'y a plus d'arbres aussi, les photos sont vraiment saisissantes. Il fait aussi très chaud en ce moment à Mayotte. Franchement, vous vous attendiez à un tel spectacle de désolation. L'expression est malheureusement galvaudée, mais c'est un peu ça qu'on a l'impression de voir à Mayotte. Hein.
C'est tout à fait exact, avec des moments de silence, c'est-à-dire peu de monde visible de l'hélicoptère, quelques personnes de ci-là. Bon, après, nous sommes allés évidemment dans Mabuzou et puis sur Petite Terre, on rencontre du monde, mais globalement une île et un ensemble de personnes sidérées en réalité.
Ouais. Vous dites vous avez pris l'hélicoptère, c'est-à-dire on peut prendre les routes, elles sont déblayées à l'heure où l'on se parle, François-Noël Buffet. On en est où là justement là? Depuis des secours depuis 3-4 jours.
Alors, à l'heure où l'on se parle, les routes sont déblayées, sauf sur la partie nord qui reste et qui va être faite aujourd'hui. Hier, a embarqué de la Réunion un régiment de génie pour pouvoir procéder à ces déblayages, bien évidemment. Un A400M est arrivé avec 23 tonnes d'eau et de nourriture pour être distribué dès aujourd'hui dans les communes, puisque nous avons choisi de nous appuyer, le préfet a choisi de s'appuyer à juste raison sur les communes. Oui. La distribution démarra aujourd'hui. Il y a également l'entreprise, une structure de désalinisation pour l'eau, oui, qui devrait être opérationnelle d'ici cette fin de semaine. L'eau fonctionne à 50%, le réseau d'eau, mais attention au risque de mauvaise qualité de l'eau, d'où un équipage qui est arrivé également hier de la sécurité civile pour le traitement des eaux. La police de l'air ministère des Frontières est aussi sur place depuis hier. L'électricité a été remise en route partiellement, mais ça fonctionne sur Mamoudzou et sur le territoire. Donc un hôpital de campagne va être installé d'ici la fin de la semaine, tout début de semaine prochaine, pour venir en appui. Les équipes sont déjà là. Elles sont sur place depuis hier pour soulager l'hôpital de Mamoudzou, qui lui-même a été endommagé dans sa toiture, mais continue de fonctionner.
Qui est structurellement débordé en plus. Hein. D'habitude, c'est aussi une situation d'urgence permanente qu'on connaît à Mayotte, François-Noël Buffet.
Oui. Il est débordé, surtout le personnel qui ne s'est pas arrêté, qui est aussi épuisé, alors qu'ils soignent, c'est très très bien, mais ils sont fatigués, ils ont besoin de renfort et de repos aussi, donc il est important que les équipes arrivent aussi pour s'inscrire dans la durée, car je crois qu'il faut qu'on ait conscience qu'on va devoir s'inscrire dans la durée.
Bien sûr. Hein,
entre le moment de l'extrême urgence aujourd'hui et celui de la reconstruction qui s'amorce et sur lequel on travaille, il va y avoir cette période un peu longue.
J'ai une question, alors lecture un peu plus politique, François-Noël Buffet. Est-ce que l'État est au niveau de la crise? Je vous pose cette question parce qu'au début, on s'est quand même dit, tiens, 4 avions qui vont faire le pont aérien. Bon, finalement, ce sera plus, il y en a 13 appareils militaires, hein, plus des appareils civils. Est-ce que l'État français est au niveau de la crise humanitaire à Mayotte?
Vraiment, je peux témoigner de l'engagement des services de l'État, des préfets, de tous les services et de toutes les structures qui dépendent de l'État. En moins de 40... Alors d'abord, il y avait des personnels qui étaient prêts, en place.
L'engagement, mais y a-t-il les moyens?
Mais il y a les moyens. Je vous promets qu'aujourd'hui, la noria des avions a débuté. Hier, l'aviation civile, notamment Air Austral, a été mobilisée, fait les transports et fait des rotations. Tout arrive. Vraiment, tout le monde est mobilisé. On peut pas laisser dire que l'État est en dessous de l'action qu'il doit mener. Il se mobilise très, très fortement. Vous voyez, par exemple, pour le traitement de l'eau, les spécialistes me disaient que lorsqu'il y a des problèmes d'eau à Mayotte, on a mis pratiquement 3 mois pour mettre en place un dispositif. Aujourd'hui, ils l'ont quasiment mis un dispositif. En moins d'une semaine, ce sera fait. Donc, c'est vous dire la mobilisation. Elle est totale. Il faut que nos concitoyens, nos compatriotes mahorais d'abord, et tous nos concitoyens se rendent compte que l'État est mobilisé, vraiment. Et le ministre démissionnaire que je suis, qui est sur place depuis lundi, qui suit ça de près, qui travaille aussi sur un projet de loi futur, je vous assure qu'on est mobilisé.
Alors, Bruno Retailleau, votre confrère de l'intérieur, dont vous dépendez, aussi François-Noël Buffet.
Non, pas du tout, je suis indépendant, je dépends du Premier ministre.
Pardonnez-moi, autant pour moi. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, démissionnaire lui aussi, a dit qu'on ne pourrait pas reconstruire Mayotte sans traiter la question migratoire. On sait que la pression migratoire à Mayotte est énorme. Est-ce que vous sentez une volonté similaire chez François Bayrou, le Premier ministre, qui a été un peu évasif, on va dire, sur la question migratoire hier à l'Assemblée nationale?
Je crois que les deux positions peuvent en réalité se rejoindre. Il y a l'urgence du moment, celle qui est humanitaire. On ne sait pas aujourd'hui le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Le saura-t-on un jour? Nous ne savons pas, mais on ne sait pas.
Mais c'est ahurissant, ça.
Irrégulier ou irrégulier, on ne sait pas. Première chose, il faut traiter ça. Deuxième chose, on sait tous, et depuis longtemps, moi je travaille sur ce sujet depuis 2006, en particulier à Mayotte, sur l'immigration, on a une difficulté majeure et on ne pourra pas se retrouver dans la situation dans laquelle on était avant. Il faut en avoir conscience.
Mais il était question de créer une espèce de barrière maritime pour empêcher notamment les flux de clandestins depuis les Comores voisines. Oui. On va y arriver à faire ça, vous pensez, François-Noël Buffet?
Il y a plusieurs sujets. En fait, il y a plusieurs manières d'agir. Il y a évidemment le contrôle des côtes de Mayotte et de son environnement, et singulièrement venant d'Anjouan, pour être très précis. C'est un contrôle aérien, c'est un contrôle de radar. Certains radars ont été détruits par le cyclone, mais aujourd'hui ont été remplacés par des moyens mobiles qui vont permettre la reprise de ce contrôle. La police de l'air et des frontières est sur place pour assurer, dans le cadre de rapatriements qui seront faits, notamment sur la Réunion pour l'instant, peut-être sur la métropole demain, pour assurer le contrôle des personnes qui embarquent. Il n'est pas question, très honnêtement, d'être en difficulté, de se retrouver, de remettre Mayotte dans la situation dans laquelle elle était avant. Ça nécessite simplement, dans l'urgence du moment et dans le drame du moment, de bien séquencer les choses et de ne pas opposer les choses.
Merci.
Vraiment, moi j'insiste là-dessus, très fortement.
Merci beaucoup en tout cas de votre disponibilité, des minutes que vous nous avez consacrées, François-Noël Buffet, donc le ministre démissionnaire des Outre-mer en direct ce matin depuis Saint-Denis de la Réunion. Bonne journée à vous, bon courage.
Merci, excellente journée. Au revoir.
Et à 22h29 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les années top 50 avec Omblin Roche.
Merci Maëlle Hassani. On vous retrouve à 23h sur Europe 1 pour un nouveau point sur l'information. Et tout de suite, ce sont les années top 50.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à tous les petits clous dans les années top 50. C'est votre quart d'heure musical du soir, votre Madeleine de Proust sonore, votre voyage temporel qui vous balade dans les charts français des années 80 et 90. Deux décennies très riches qu'on prend plaisir à revisiter ensemble tous les soirs à l'occasion des 40 ans de l'émission du top 50 cette année et des 70 ans d'Europe 1. Un très bel anniversaire qu'on fêtera très exactement dans deux semaines, le 1er janvier.
Les années top 50, Omblin Roche sur Europe 1.
Alors vous savez, vous nous connaissez maintenant, dans cette émission nous surveillons de près les journées mondiales et aujourd'hui eh bien c'est la journée mondiale de la langue arabe, l'occasion pour nous de repasser trois titres qui mettent à l'honneur cette très belle langue. Le premier chanteur qu'on écoute ce soir sur Europe 1, c'est Khaled. En 1996, la star du Rai rencontre Jean-Jacques Goldman au détour d'une émission télévisée. Eh bien ils décident de collaborer ensemble et d'écrire cette chanson Aïcha dans les années top 50.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Écoute-moi, Aïcha, Aïcha, écoute-moi.
belle voix de Khaled sur Europe 1 avec Aïcha, l'un des plus gros succès du chanteur et de l'année 1996. Et puisque le titre atteint la première place des meilleures ventes de singles, très peu de temps après sa sortie d'ailleurs, voilà un joli mélange des genres entre la patte reconnaissable entre toutes de Jean-Jacques Goldman et les touches arabisantes de l'univers de Khaled.
Europe 1, les années top 50.
Ondine Roche.
Allez, une autre collaboration très réussie, celle entre le chanteur de Police, le grand Sting, et le chanteur de Rai, Cheb Mami. Ils réalisent eux aussi une fusion entre pop rock et musique du monde, et ensemble, ils ont écrit une chanson qui avait aidé à populariser le Rai dans le monde, puisqu'elle est montée très haut dans les classements internationaux à sa sortie en 1999. Numéro 6 en France, voici Desert Rose, Sting en duo avec Cheb Mami sur Europe 1. Cheb Mami, c'était Desert Rose sur Europe 1, et sachez d'ailleurs que c'est à Paris que Sting a découvert la musique Rai. Il a enregistré alors son album et il a choisi d'inviter Cheb Mami pour ce titre. Alors l'histoire est drôle car Sting ne parlait pas un mot d'arabe et Cheb Mami ne parlait pas du tout anglais, mais ils ont quand même réussi à écrire cette très très belle chanson à quatre mains.
Europe 1, les années top 50.
Pour la dernière chanson de ce soir, je vous propose de réécouter l'un des plus gros tubes de Daniel Balavoine. Un hymne anti-racisme, une ode à la paix, l'Aziza, dans les années top 50. Très belle soirée avec nous sur Europe 1.
Petite rue de Casbah, au milieu de Gaza.
Lavoine avec l'Aziza sur Europe 1. L'Aziza qui signifie chérie en arabe. La chanson s'est classée numéro 1 du top 50 pendant plusieurs semaines au début de l'année 1986, donc tout de suite après le décès tragique du chanteur dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Accident survenu au Mali alors qu'il s'occupait d'une action humanitaire. L'altruisme de Daniel Balavoine illustré aussi bien dans son art que dans ses actions.
Europe 1, les années top 50. Aubine Roche.
Et ben voilà les petits clous, les années top 50, c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission où on célébrera l'arrivée de l'hiver avec Michel Berger, les Bengals et Elsa. Alors la chanteuse, hein, pas la reine des neiges, quoique. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Olivier Delacroix pour la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Olivier. Pendant plusieurs semaines au début de l'année 1986, donc tout de suite après le décès tragique du chanteur dans un accident d'hélicoptère lors du Paris-Dakar. Accident.
Europe 1.
Bonsoir, il est 22h44 sur Europe 1 et bien évidemment, nous vous retrouvons dès demain soir à partir de 22h30 pour un nouveau voyage dans le top 50.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée chers amis et que vous êtes confortablement installés chez vous ou sur le retour sur la route de votre maison, de votre appartement. Les vacances de Noël ou les fêtes de fin d'année approchent et vous le savez, c'est une période particulière pour cette libre antenne aussi et puis pour tous les moments que vous vivez sur votre radio quotidiennement. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, à tout moment vous pouvez décrocher votre téléphone et composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir de vous entendre ce soir. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr. Vous pouvez écrire à Julia et à Florian qui vous répondront dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi écrire vos courriers postaux ici à Europe 1, 2 rue des Cévennes, la Libre Antenne 75015 Paris. Et puis sur la page Facebook en privé, vous pouvez adresser vos messages aussi à Julia et à Florian. Nous accueillons 9 nouveaux membres aujourd'hui. Nous sommes désormais 21 403 à composer cette grande communauté de la Libre Antenne. Et puis durant toute l'émission, vous le savez, vous qui êtes habitués, vous composez le 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, si vous désirez envoyer vos messages et commenter ce que vous voyez à l'antenne, ce que vous entendez à l'antenne. Vous pouvez même intervenir en demandant à Florian en SMS ou à Julia de vous rappeler instantanément. Et vous le savez, nous le faisons de temps en temps. Vous pouvez agir sur cette antenne en conversant avec la personne qui est en train de témoigner. Voilà, j'espère que vous êtes bien sur Europe 1, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
La libre antenne, Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, avant d'accueillir Ashley, que nous allons accueillir dans quelques secondes, le proverbe toltec de la journée. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Ça, c'est un grand proverbe toltec. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté, mes idées, tout ce que je peux avoir dans la tête et le fait que je ne suis plus tout à fait une jeune femme ou un jeune homme, ou que peut-être je ne suis pas un sportif de haut niveau ou un acrobate aguerri. Et donc, je dois réfléchir avant d'entreprendre quoi que ce soit de physique. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps, lui, est ancré là, dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. C'est le proverbe toltec du jour, à méditer sur cette idée excellente de Florian Lanoir, qui depuis le début de cette saison nous offre ces proverbes toltec. Nous accueillons Ashley maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Ashley.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où m'appelez-vous et quel âge avez-vous ?
Je suis de Paris, j'ai 32 ans.
Oui. Bon, ça c'est déjà pas mal.
Je viens de revenir à Paris après.
D'accord. Alors, je vous entends pas très bien. Vous pouvez vous déplacer dans un endroit où je vous capte bien, s'il vous plaît, Ashley?
Oui.
Normalement, là. Voilà. Je crois bien mieux vous entendre. Alors, de quoi voulez-vous me parler, Ashley? Vous voulez me parler de... Allô?
Vous m'entendez mieux, comme ça?
Alors, vous parlez sur des écouteurs, Ashley?
Non, mais je les ai enlevés.
D'accord, super. Ah ben là, je vous entends, nickel.
D'accord.
Vous voulez me parler de votre histoire, Ashley?
Oui, c'est une histoire qui s'ancre dans une prise de parole qui est en train de devenir beaucoup plus vaste. J'ai vraiment à cœur d'utiliser mon parcours et mon histoire autour de l'addiction, autour de la résilience et d'une grande découverte des enjeux de la santé mentale.
Oui.
Pour pouvoir sensibiliser, enfin, ouvrir le champ des possibles en fait, de ce qui existe. Parce que je vois énormément de souffrance. Aujourd'hui, je suis coach, auteur, entrepreneur, conférencière. Je suis en contact avec énormément de personnes et je sais que ces personnes sont potentiellement le plus besoin de m'entendre ou d'entendre des messages d'espoir. Ce sont pas forcément celles que je vais croiser tous les jours. Donc, j'aime bien partager dans des endroits où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer.
D'accord. Et vous avez très bien fait d'appeler cette libre antenne, car comme son nom l'indique, on peut y parler tout à fait librement. Et puis, sensibiliser sur la santé mentale, sur les problématiques autour de la santé mentale et autour de l'addiction, eh bien, vous êtes au bon endroit, parce qu'on en parle régulièrement sur cette antenne. Je crois que votre parcours est riche d'épreuves, mais on va parler d'abord de votre milieu. Vous êtes né dans un milieu assez privilégié, Ashley, hein. Votre mère est américaine, votre père est franco-israélien. Où est-ce que vous avez grandi?
Alors, j'ai grandi à Ibiza.
Oui.
Oui, ça existe. C'est une île sur les bords de l'Espagne qui a la réputation, parce qu'elle a vraiment été la capitale à l'âge d'or de la musique électronique et de la fête dans les années 90.
Je crois savoir qu'elle l'est toujours plus ou moins, quand même.
Alors, c'est une conversation entre puristes. Moi, je pense que non. Les autochtones,
oui.
Les défis de base non plus, parce que du coup, aujourd'hui, comme tout ce qui a été médiatisé et en français, n'est qu'une parodie de ce que ça a pu être.
Oui, c'est devenu une mecque, mais qui ressemble plus, vous avez raison, à une parodie de ce que fut vraiment Ibiza avant, où vous pouvez parler de puristes de la musique électronique. Et de fêtes incroyables, mais réunissant vraiment des personnes étant des puristes de cette musique et je dirais même de la fête, hein, parce que le sens de la fête, en fait, c'est plus aussi cela dont il faut parler quand on voit Ibiza. Alors, Ibiza étant resté aujourd'hui un lieu où on continue vraiment d'aller dans des grandes boîtes de nuit, mais l'esprit n'est plus du tout le même. Il a changé. C'est devenu une mecque commerciale aujourd'hui de la fête. Mais en ayant vécu dans cette ambiance-là, est-ce que vous diriez que enfant, vous avez déjà été influencé par justement des comportements que vous voyez avec votre regard d'enfant, avec vos yeux d'enfant, avoir été imprégné d'une certaine marginalité chez les humains qui vous entouraient quand vous étiez enfant?
C'est une question très très intéressante qui a plusieurs vagues de réponses. Je dirais que la première, la marginalité, la vraie, on va dire, par rapport à la société, que ce soit celle d'Ibiza, mais est venue assez jeune de par les allers-retours que j'ai pu faire entre les kibbutz, donc les villages un peu basés sur les structures communistes qui ont pu exister en Israël à l'époque. Vraiment, là, on était dans un village de hippies, quoi. On marche pieds nus, on mange tous à une espèce de cantine communale pour tout le monde. Tout est axé autour de l'agriculture. Enfin, on est vraiment sur le miroir inversé total de ce qui se passe à l'Isia. Donc moi, j'avais passé toutes mes vacances scolaires là-bas.
Oui.
Ça a été ma première grande fracture. Après, j'avais aussi mes grands-parents qui étaient dans 93 en banlieue parisienne. J'ai eu un peu ces trois polarités qui m'ont tout de suite fait comprendre qu'en fait, l'Isia était effectivement une forme de microcosme. En ce qui concerne après ce que j'ai pu voir, aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue de grandir entourée d'art, en fait. De grandir entourée de personnes qui étaient extrêmement ouvertes d'esprit ou de manière vraiment diffuse, finalement, parce que c'est pas des conversations qu'on a avec des adultes quand on est enfant ou quoi, mais c'est partout autour de nous, en fait. C'est-à-dire que les gens sont à l'aise, les gens sont fiers d'être ce qu'ils sont, les gens sont libres. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pris effectivement depuis très très jeune, que ce soit par la direction artistique des grandes affiches qu'il y avait sur toutes les routes pour aller à l'école, qui vantaient telle et telle fête avec des dessins incroyables, dans tout un univers. Il y avait vraiment quelque chose de très riche au niveau de la créa, en tout cas, qui m'a énormément marqué.
Vous étiez une enfant solitaire et très indépendante, mais toujours plongée dans les livres aussi. Toute jeune, vous lisiez beaucoup?
Oui, je pense que c'est quelque chose que je tiens de ma grand-mère.
Oui.
Mais c'est vrai que ça a été, c'est comme quelque chose qui a pris et qui ne m'a jamais quitté. Alors après, voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est ce qui m'a donné, à la suite, on va dire, de ce que j'ai pu voir à Ibiza, cette espèce de. Cette envie de grandeur, mais pas d'une grandeur liée à la matérialité, au succès, ou en tout cas aux critères qui sont aujourd'hui estimés des critères de réussite ou en tout cas de vision de vie. Moi, j'ai toujours eu des objectifs qui étaient alignés avec ce qui aurait pu se passer dans un bouquin. Et je pense que c'est il y a clairement une influence entre mes lectures et les choix que j'ai fait dans ma vie.
Est-ce que dans ces livres, vous n'avez pas trouvé justement une quête d'émotion et une quête d'intensité qui finalement vont avoir une influence sur la fragilité qui vous guette ensuite lorsque vous allez pour la première fois dès vos 12 ans connaître votre première addiction qui a été la nourriture justement.
Oui, je pense qu'aujourd'hui aussi, avec le recul, les milliers de lectures que j'ai pu faire m'ont aussi donné de la matière pour mieux comprendre ce qui se passait autour de moi et donc à développer une sensibilité, une compréhension pour les archétypes.
Aujourd'hui.
Non, même à l'époque. Après, j'étais une enfant quand même assez précoce. Bon, moi, j'aime pas mettre de sigles et d'acronymes, mais c'est sûr que j'avais déjà une manière un peu particulière de percevoir le monde qui m'entoure, qui n'a pas forcément été une facilitatrice, hein, bon, au contraire. Mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la question qui a été posée tout à l'heure sur Ibiza et le comportement des adultes. En fait, les choses que je peux aujourd'hui comprendre et interpréter avec la connaissance que j'ai et la compréhension du milieu, à l'époque, ne l'étaient pas. J'étais juste étrange, en fait. Il y avait effectivement une... il y avait des incohérences en fait dans le comportement des adultes, il y avait des incohérences entre leur discours et leurs actions.
C'est pour cela que je vous posais cette question, parce que il y avait sans doute dans vos yeux d'enfant qui observaient ce monde alors à travers l'art, les affiches sur la route, mais aussi je parle de la manière de s'habiller des personnes à cette époque. Moi, je suis allé il y a 30 ans à Ibiza. Je me souviens y avoir aussi croisé souvent des personnes qui vivaient en communauté. Vous voyez, il y avait quelque chose qui faisait que c'était un endroit totalement différent du reste de la Terre, en tout cas de ce que j'avais vu. Et en cela, ma question, c'était, est-ce que justement cette différence, ce climat, ces vibrations que dégage cette île d'Ibiza et ce qui s'y passe, ne vous a pas tout de suite mis sur une quête d'intensité, d'émotion particulière que vous ne connaissiez pas, mais qui vous a mis en quête justement de tout ça?
En toute sincérité, s'il y en a une, ça a vraiment été une quête qui a été animée par un rejet. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai toujours, là aujourd'hui, j'en parle avec...
Vous savez quoi excusez-moi, Ashley. J'ai vraiment un problème technique à vous écouter. On va faire une pause. On va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on va régler techniquement tout ça pendant le temps de l'info. Je vous retrouve dans quelques minutes, d'accord? À tout de suite.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire de Jean Moulin, le résistant face à la barbarie nazie a fait son entrée au Panthéon il y a 60 ans, jour pour jour, devenant alors un héros national.
Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire.